Bonjour à tous et à toutes, il est 20h et tout de suite c'est En eau trouble sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
Tu devrais prendre un peu sur toi.
Tu n'es pas objective.
Non mais faut arrêter d'y penser.
T'as pensé à la méditation ? Inutile d'avoir peur.
Tu es juste fatiguée.
Calme-toi.
Moi, à ton âge, tu t'écoutes trop. Pas de raison de stresser.
Respire. Tu exagères.
Quand on a faim, on mange, c'est tout. Bah, si j'étais à ta place...
En eau trouble, c'est le podcast qui vogue sur les eaux brumeuses du psyché, le jeudi à 20h en bimestriel sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Les troubles nerveux sont au programme de cette quatrième émission. Lorsque les tics s'immiscent dans un quotidien, peuvent-ils nous définir, déterminer nos vies ? Libérons la parole et libérons l'écoute, levons le voile sur certains de ces troubles incompris. Je m'appelle Louisa Georges et vous écoutez le quatrième épisode d'En eau trouble, un jeudi à 20h, en bimestriel sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Pour ce quatrième épisode dédié aux troubles nerveux, Maxime vient nous parler de sa vie avec le SGT, plus connu sous le nom de syndrome de Gilles de la Tourette. Salut Maxime.
Salut Louise.
Tu es notre premier invité à avoir déjà travaillé derrière un micro. Ça va, pas trop impressionné?
Ça va, ça me rappelle plus mes études qu'autre chose.
C'est parfait. Alors, je rappelle rapidement le concept de l'émission. Un invité par thématique que l'on divise en trois parties. Une large présentation de ton trouble, sa place au quotidien et enfin la place des autres dans tout ça. Tu es prêt?
Je suis prêt.
Let's go. Alors pour commencer, pour une partie plus présentation, je vais te demander de nous faire un point chronologique et descriptif sur ton trouble. Depuis quand est-ce que tu souffres de tout ça ? Décris un petit peu les symptômes, leur régularité, est-ce qu'ils ont évolué dans le temps ?
Alors, de ce qu'on m'a dit, parce que je ne me souviens pas de tout, mes premiers tics sont apparus quand j'avais environ 6 ans. À l'époque, c'était surtout au niveau du visage, pas mal de clignements d'œil, de mouvements de tête, choses comme ça. Et ensuite, au fil des années, donc les tics changent régulièrement. Ça descend souvent dans le corps, donc j'ai des tics au bras, puis au niveau même des organes internes, genre, ou des muscles que je contracte assez régulièrement, mais toutes les secondes quasiment. Et ensuite, ça descend jusqu'aux jambes. Donc, quand j'étais à l'école primaire, clairement, quand il fallait faire le cross du collège ou des choses comme ça, ça m'arrivait de sauter pendant que je courais, de me taper les fesses avec le pied, etc. Donc, ça a évolué comme ça. Et ensuite, je suis arrivé au diagnostic à 17 ans seulement. Donc, en fait, de mes 6 à mes 17 ans, mes parents pensaient que j'avais des tics, mais juste plus que la normale. Et à 17 ans, je suis allé voir un professeur spécialiste du syndrome Gilles de la Tourette à Clermont-Ferrand en Auvergne. Et là, on m'a posé le diagnostic. Voilà, vous avez le syndrome Gilles de la Tourette. À l'époque, à un stade moyen. Aujourd'hui, je suis à un stade faible. Et du coup, à partir de ce moment-là, je suis arrivé à l'âge adulte et là, on a trois possibilités. En gros, soit les tics disparaissent totalement, soit ils restent tels qu'ils sont, soit ils augmentent un petit peu. Moi, ils sont restés à peu près tels qu'ils étaient, voire ils ont diminué parce que, on en parlera sûrement, mais j'ai suivi une thérapie, puis pris des médicaments.
D'accord. Donc, voilà. Ça doit être épuisant sur le long terme.
C'est assez fatigant.
Parce que du coup, ça fait partie de ta vie, tu les as en permanence. Là, tu les as aussi devant moi. Tu peux les avoir à des stades différents selon ce que tu vas faire, ce que tu vas dire.
Ouais.
On parlait notamment du fait que dès que tu fais quelque chose qui t'intéresse, qui te plaît, qui te fait du bien, tu peux avoir moins de tics, voire plus du tout.
Ouais, c'est ça. Il y a un phénomène qui est assez spécial avec ce syndrome, qu'on n'arrive pas trop à expliquer encore. C'est qu'en fait, quand on pratique notre passion, peu importe ce que c'est, que ce soit du sport, de la musique, de l'art, on n'a plus de tics. Genre, ça s'arrête du jour au lendemain. Il y a un autre moment où ça s'arrête, c'est quand on dort. Quand on dort, on a zéro tic. Souvent, même ma copine, elle s'inquiète un petit peu. Elle me dit, j'ai l'impression que t'es mort.
C'est fini.
C'est ça. Donc non... ouais, il y a ce phénomène-là. Quand moi, par exemple, je joue au basket... Pendant une action, que j'ai le ballon ou non, je ne vais pas avoir de tic. L'action va s'arrêter, boum, ça va reprendre. Donc oui, c'est fatigant. Après 15 ans de vie commune avec mon syndrome, c'est clair que tu apprends à t'habituer. Donc oui, tes muscles sont fatigués, c'est une fatigue nerveuse, mentale, parce que tu as conscience quand même de ce que tu fais. Après, voilà, la fatigue mentale vient aussi par rapport au regard des autres, qui, bah, au bout d'un moment, c'est fatigant de toujours avoir à se cacher par rapport à ça, ou alors s'en foutre, c'est plus compliqué, mais ça vient avec le temps. Donc voilà, en gros, c'est, il y a que ces moments-là où tu respires vraiment quand tu dors et quand tu pratiques ta passion.
Point définition. Le syndrome de Gilles de la Tourette a été décrit pour la première fois au 19e siècle par le neurologue français Georges Gilles de la Tourette. La maladie associe plusieurs tics moteurs et au moins un tic vocal, présent pendant au moins un an et apparaissant avant l'âge de 18 ans. Le syndrome Gilles de la Tourette touche environ une personne sur 200 en France, environ 0,5% de la population, et plus souvent les garçons que les filles. Une autre particularité de ce syndrome est qu'il se résorbe ou s'améliore spontanément à l'âge adulte chez environ 75% des patients. Ces informations sont issues du site de la Haute Autorité de Santé et de l'Institut du Cerveau. T'avais commencé à répondre à la question, mais est-ce que tu as rencontré des difficultés à t'informer sur ce trouble ?
Alors, ma tante m'en parlait depuis quelques années avant mon diagnostic. Donc, elle avait une idée un petit peu de ce que c'était et avait en quelque sorte posé un peu de diagnostic avant. Donc, moi, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'informer. J'ai vu que je répondais aux critères du trouble. Et ensuite, je ne me suis pas informé outre mesure dessus. En fait, ça s'est fait un peu tout seul. Mon métier, c'est de m'informer surtout tout le temps. Je suis journaliste. Là, c'est plus quand j'allais chez le professeur qui me suivait ou chez la psy qui m'a suivi ensuite que j'ai pu en fait avoir plus d'infos. À ce moment-là, on m'expliquait tout ce qui allait se passer. On m'expliquait la thérapie que j'allais suivre. On m'expliquait ce qu'était mon syndrome au départ. J'ai même pas eu à poser tant de questions que ça, en fin de compte.
Oui, finalement, tu as été pris en charge assez facilement. Dès que tu as été suivi par le professeur, qu'est-ce qu'on t'a proposé pour commencer ?
Alors, il faut savoir que j'ai testé beaucoup de choses avant d'en arriver à un diagnostic médical et ensuite une prise en charge médicale. J'ai testé les guérisseurs, j'ai testé l'homéopathie, j'ai testé la microkiné et je dois en oublier. Genre vraiment, je pense que...
Alors déjà, la microkiné, je suis très intriguée. Vous m'expliquez la microkiné.
Bah, je sais pas, on m'a manipulé le corps pour me dire qu'il y avait des troubles anciens qui étaient coincés. Voilà. Un peu de bullshit, on va pas se mentir. Et ensuite, après, ouais, je suis arrivé au diagnostic médical. Et là, à ce moment-là, on m'a proposé d'abord de ne pas toucher aux médicaments. Et de faire plutôt une thérapie cognitive et comportementale, une TCC. Alors l'idée, c'est de te réapprendre à respirer. À l'époque, j'avais un tic qui m'empêchait de respirer. En fait, je respirais très très fort et c'était toute la journée. Donc soit ça me faisait faire des malaises vagaux, soit tout simplement, un peu comme là, j'étais grave essoufflé. Donc c'était très compliqué et du coup, cette thérapie m'a permis de réapprendre à respirer avec une respiration abdominale. Donc je me concentrais sur le fait de respirer avec mon ventre plutôt qu'avec mes poumons. Et ça, en fait, ça a permis d'espacer les tics de plus en plus. Au départ, je tenais 3 secondes. À la fin, je tenais 6 ou 7 heures sans avoir un seul tic.
Et t'es suivi par un psychologue ou par un psychiatre ?
Alors, à l'époque, suivi par un psychologue, enfin une en l'occurrence, parce que c'est dans ce cadre-là, c'est que des psychologues qui pratiquent la TCC. Et ensuite, j'ai arrêté d'être suivi par une psychologue. Et du coup, je suis parti à Paris. Et je suis passé à la partie médicaments. Et là, j'étais suivi juste par un professeur. Et en gros, je le vois tous les 6 mois ou tous les ans pour qu'il régule la dose de médicaments qu'il me donne.
Parce que du coup, là, tu prends un médicament tous les jours ?
Ouais, tous les jours. Et a priori, ce sera à vie.
Alors, qu'est-ce que c'est comme médicament ?
C'est de l'Abilify. Alors la molécule, c'est l'aripiprazole. C'est une molécule qui est utilisée pour d'autres troubles comme la schizophrénie ou la bipolarité. Sauf que moi, c'est à des dosages beaucoup plus faibles que pour ces maladies-là.
Est-ce que tu souffres de... Comment dire de...
D'effets secondaires ?
D'effets secondaires, tout à fait.
Alors oui, mais moi, j'ai de la chance. J'en ai pas tant que ça, alors qu'il peut y en avoir beaucoup. Le seul que j'ai, c'est de la fatigue. Je dirais pas extrême, mais une grande fatigue. Le matin, c'est très dur de se lever. L'après-midi, t'as envie de faire des siestes tout le temps. Et le soir, moi qui étais plutôt un animal un peu nocturne, à me coucher à 1 ou 2 heures minimum, là, 22 heures, ça devient compliqué de rester éveillé.
Les tics apparaissent durant l'enfance, généralement entre 6 et 8 ans, et sont presque toujours, dans 85% des cas, associés par la suite à un ou plusieurs troubles psychiatriques. Comme nous l'a très bien expliqué Laura dans le deuxième épisode sur le TDAH, les patients atteints du SGT souffrent de comorbidités. Déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, troubles obsessionnels compulsifs, crises de rage, troubles du spectre de l'autisme, troubles de l'apprentissage, s'ajoute au traitement des tics un travail de suivi pour les différentes comorbidités. La thérapie comportementale cognitive, ou TCC par exemple, permet de réduire les tics chez les adultes et les enfants. Ces approches thérapeutiques peuvent venir compléter un traitement médicamenteux, comme c'est le cas pour Maxime, ou tout bonnement le remplacer. Ces informations sont issues du site Tourette Association of America et de la Haute Autorité de Santé.
Ouais, j'ai surtout de l'anxiété, on va dire. Mmh. C'est ce qui est le plus prégnant. Après, je saurais pas trop associer plus de comorbidité que ça à ce trouble-là. Mmh. Parce que je peux avoir tendance à me laisser envahir par la tristesse assez facilement. Je sais pas encore une fois si c'est lié à la Tourette ou non. Après, pareil... J'ai été très embêté par mes tics à un moment, notamment au lycée, surtout à un moment où il faut passer des examens, etc. Mmh. Mais j'ai pas été embêté par tant de comorbidités que ça, en plus.
Parce que du coup, tu l'as pas dit, mais t'es aussi diagnostiqué HPI.
Ouais, ça m'a vraiment...
C'est déjà plus embêtant.
C'est ça, ouais. C'est limite ce qui m'a le plus fait souffrir quand j'étais gosse, pour le coup, plus que les tics, alors que pourtant, il y avait pas mal de moqueries. J'ai été diagnostiqué HPI, et ça, pour le coup, ça emmène... Alors, c'est pas des comorbidités, forcément, mais ça emmène beaucoup d'autres sentiments. La déprime peut arriver très rapidement à cause de ça, il y a un énorme décalage avec les autres et du coup c'est parfois compliqué à gérer. Donc je sais pas forcément ce qui est lié trop des fois à la Tourette ou au côté HP, je sais juste que dans mon cerveau parfois c'est le bordel et qu'il faut un peu ranger, quoi.
Bah surtout que j'imagine que ça fait aussi un cercle vicieux. Parce que à force d'avoir des tics, le regard de l'autre n'est pas non plus hyper simple à gérer. Donc tu peux dire que ça peut aussi te déprimer, ça peut rendre triste, ça peut créer de l'anxiété sociale. Donc c'est compliqué ça. De savoir qui est arrivé en premier, quoi.
Exactement. Et puis tu surinterprètes tout. Donc j'entends des fois des gens qui ont la Tourette qui disent « Moi, je me rends plus compte de mes tics. » Moi, je m'en rends tout le temps compte. Donc le fait de tout le temps savoir que tu en as, ça te fait aussi surréfléchir parce que tu sais que les gens le voient, même si mes amis me disent de plus en plus qu'eux, ils ne les voient plus depuis des années. Moi, je sais que les gens lambda qui ne me connaissent pas, ils ne voient que ça au départ. Je vois par les regards qu'il y a dans le métro, je vois par des réflexions que je peux avoir parfois au travail ou ailleurs. Les gens le voient et je le sais. Du coup, forcément, là, tu as deux interprétations possibles. Soit tu te dis « je m'en fous, c'est comme ça, les gens ils admettent pas la bizarrerie, entre guillemets. On est en France, la culture est peut-être un peu moins ouverte d'esprit que dans d'autres pays. Soit tu restes focalisé dessus et à ce moment-là, c'est compliqué parce que tu te sens mal. À la fois quand c'est un tic qui gêne les autres, ce qui m'est arrivé en période d'examen avec la toux notamment, tu fais chier tout le monde, à ce moment là t'as pas envie de faire chier tout le monde, en même temps tu peux rien y faire, donc t'essaies de te contrôler, en essayant de te contrôler tu t'énerves, tu te frustres, mais tu gardes ça pour toi, tu vois que ça fonctionne pas, que les autres entendent toujours tes tics quand même parce que tu peux pas les annihiler à 100%, donc c'est un cercle vicieux comme tu dis, et vu que t'es en pleine conscience de ça tout le temps, c'est compliqué à gérer.
Mais du coup, est-ce que tu penses que la société dans laquelle tu vis est suffisamment alerte sur ces questions ou pas du tout ?
Je pense qu'elle n'est pas assez alerte, non. Je pense que des fois, j'en veux pas trop aux gens. Dans le sens où...
J'aime bien le « des fois ».
Ouais. Ouais,
parfois, ouais. Des fois, je vous en veux pas.
Non, disons que c'est... ça dépend du type de personne que tu as face à toi. Mmh. Des gens qui sont juste lambda, qui ne connaissent pas, tu peux pas leur en vouloir parce que voilà, la Tourette, c'est connu pour son stade le plus élevé. Les gens, tu leur dis Tourette, ils pensent aux insultes. Sauf que c'est un handicap bien avant ça. Et que tu peux en souffrir sans avoir à proférer des insultes à tout bout de champ. Donc non, je pense pas qu'on soit assez alerte. Mais j'ai envie de te dire, on n'est pas très alerte non plus sur le côté HPI.
Oui.
Donc, en fin de compte, dès que tu as une différence... Alors, j'ai pas beaucoup voyagé loin, on va dire. Mais en France, tout ce qui sort un petit peu de la norme est regardé vraiment de manière bizarre. Mmh. Et ça, ben, au bout d'un moment, tu fais avec. Mais je pense que n'importe quelle personne, et je pense que tout le monde souffre de troubles plus ou moins aigus, sauf que tout le monde ne le prend pas de la même manière. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent à assimiler ça beaucoup plus facilement. Quand tu es alerte et hypersensible, ça va avec le HPI aussi, mmh. et que tu ressens tout fois 10 000, bah, le regard des autres, tu le ressens fois 10 000 aussi. Donc ça, c'est compliqué à gérer.
Et c'est vrai qu'en France, tu as l'impression que dès que ça touche un petit peu au psychologique, et encore que les tics se voient physiquement, enfin, il y a vraiment quelque chose qui se fait et qui peut se voir, tu sens que l'acceptation est quand même pas la même.
Ouais, parce qu'il y a un, je sais pas, un espèce de biais sociologique où tu te dis je sais que c'est pas bien, par exemple, de regarder quelqu'un bizarrement parce qu'il fait des choses qui sont pas normales, et en même temps, tu le fais quand même. Mm. Tu vois ? Et je pense que c'est tellement ancré dans notre culture qu'on n'arrive pas à s'en fiche des autres. Enfin, disons qu'on va leur faire comprendre qu'on les a vus pendant 5 secondes, et après on va s'en foutre pour le reste de notre journée.
Bah parce que tant qu'on n'a pas créé le lien avec quelqu'un, c'est toujours plus simple de mal le regarder dans le métro.
Exactement, et les gens ne se posent pas de questions en fait.
Non.
Ils voient, et ils n'ont pas à admettre la chose, ils ne vont pas plus loin que le premier jugement, quoi.
Si le syndrome de la Tourette porte son lot de stéréotypes, notamment pour ses injures répétées, en réalité, la coprolalie ou répétition d'insultes ne concerne que moins de 20% des patients atteints du syndrome. Ce n'est notamment pas le cas pour Maxime. En réalité, les tics sont de nature diverse selon les individus et l'étape de la maladie. Les tics moteurs sont des mouvements incontrôlés comme le clignement des yeux, haussement des épaules, les sauts. Les tics vocaux sont des sons ou des mots répétitifs et involontaires, notamment des reniflements, des grognements. Les tics ne sont pas à confondre avec les TOC, troubles obsessionnels compulsifs, se traduisant par des obsessions, des pensées dérangeantes, répétitives et incontrôlables, causant une forte anxiété. Ces informations sont issues du site de l'Institut du cerveau, Amélie, et de Tourette Association of America. On va rentrer un petit peu plus dans le détail sur les crises. J'aimerais que tu me parles d'une crise qui t'a particulièrement marqué, qu'on rentre un peu plus dans le détail du tic. Comment ça monte, comment ça apparaît, ce qui se passe dans ta tête au moment où ça se fait.
Alors vu que t'en as tout le temps, on pourrait dire que c'est difficile d'isoler le schéma. Pourtant, les spécialistes m'ont bien expliqué comment ça fonctionnait. En gros, quand tu vas avoir un tic, tu ressens ce qu'on appelle une alerte tic. Donc en gros, ce que tu as, c'est un espèce de schéma avec une courbe qui va commencer à monter. Donc ça, c'est l'alerte tic qui monte. Tu arrives en haut de ta parabole et là, tu es censé avoir le tic. Tout le travail de la TCC dont on parlait tout à l'heure, c'est d'arriver à réussir à contrôler ce moment-là pour qu'ensuite, la parabole rechute et que tu attendes la prochaine alerte tic. Donc ça fonctionne comme ça. Une crise qui m'a marqué, alors il n'y en a pas qu'une seule, mais en gros, il y a une période de ma vie où j'avais toujours les mêmes, parce que ça a beau changer au fil du temps, pendant plusieurs mois, tu as juste les mêmes tics constants. C'était quand j'étais au lycée. Là, en fait, j'étais dans une période où me réveiller le matin, c'était une souffrance. Pourquoi ? Parce que je savais qu'au bout de 3 minutes, 4 minutes, j'avais plus de tranquillité. Et là, j'étais à ne plus savoir respirer, à prendre des quintes de toux qui me faisaient faire des malaises, à, en plus de ça, du coup, à associer les tics moteurs que j'avais toujours, donc les mouvements de tête. Une fois, je suis allé chez l'ostéo en urgence, alors pas qu'une fois en urgence, mais là, pour le coup, c'était vraiment violent. J'avais eu un mouvement de tête vers l'arrière, j'étais à deux doigts du cou du lapin, et j'étais tellement bloqué que Je suis allé en cours une demi-heure et je suis parti tout de suite parce que je ne pouvais même plus marcher, en fait. Oui. Mais du coup, pour en revenir aux crises les plus violentes, c'est même pas celle du coup du lapin qui me faisait le plus mal. C'est juste que quand j'avais mes crises au lycée, il fallait du coup que j'attende soit d'aller au basket, soit de m'endormir pour ne plus avoir de tics. Mon corps se reposait la nuit, mais vu que t'es pas conscient la nuit, bah, en fin de compte, nerveusement, tu te reposes pas. Tu te réveilles le lendemain. Et rebelote. Et ça, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et c'est là que j'ai commencé à avoir ma thérapie. Et d'accord, d'ailleurs, à poser le diagnostic au départ. Parce que là, ça devenait trop important, c'était plus vivable. Et à ce moment-là, du coup, j'étais pris en charge et j'ai pu agir dessus, quoi.
Est-ce que tu peux te faire mal ? Parce que je sais que parfois, il t'arrive de taper contre la table, par exemple. Est-ce que genre, tu peux te faire des bleus ? Enfin, à quel point tu tapes fort, en fait, ce qu'on ne se rend pas compte de l'extérieur ?
Ouais, tu tapes fort.
oui.
Mais quand j'étais en télétravail pendant 4 ans, mon bureau déjà était marqué parce que, en gros, avant j'avais une souris classique comme tout le monde que je prenais dans la main et je l'exposais par terre, enfin, je l'exposais sur la table. Donc j'en ai cassé une vingtaine ou une trentaine. J'ai claqué 200 à 300 balles dedans facile avant de me rendre compte qu'il fallait peut-être trouver autre chose. Mais en claquant ma souris, je tape mon avant-bras contre le bout du bureau. Je trouve que mon bureau, c'est une planche de bois. Les bouts ne sont pas forcément arrondis, les bords. Donc, je finissais ma journée de travail. Oui, j'avais tous les jours plein de marques au bras. J'ai eu souvent des bleus aux hanches parce que je me tapais les coudes contre les hanches. Donc, ça arrive souvent. Ça m'arrivait aussi de me taper avec le poing tout simplement sur le pec. Après, voilà, je me tapais souvent les fesses avec mon pied, enfin avec mon talon. C'est pas mal ça, mais c'est chiant quoi. Ça peut limite faire mal à l'articulation du genou à la limite. Donc oui, beaucoup avec la tête, les mouvements de tête. Maintenant, tout simplement, je vais chez le kiné quasiment toutes les semaines. Je suis pris en charge pour ça, pour qu'ils me remettent ma colonne vertébrale d'aplomb. Parce que tous les jours, j'ai des mouvements de tête. Et toutes les semaines quasiment, ça a mis en ce moment, mais je me bloquais le dos, soit au cervical, soit en bas du dos. Donc en fait, il y a même des mouvements dont je suis pas conscient qui me bloquent physiquement, quoi.
Donc j'imagine que tu as été obligé de t'adapter, de mettre des choses en place. Est-ce que tu as mis en place des techniques d'évitement, des choses que tu as arrêté de faire à une certaine période de ta vie, que tu as recommencé à faire plus tard ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'adaptes encore ou est-ce que tu peux faire à peu près tout ce que tu veux ?
Alors, il y a une période forcément au pic où là, je pouvais pas aller dans des endroits où il fallait être calme. Le cinéma, c'était mort. Le théâtre, c'était mort. La bibliothèque, surtout quand en études supérieures, c'est mort. Donc ouais, il y a beaucoup de choses que j'ai dû m'empêcher de faire. Alors après, en suivant la thérapie, tu arrives à contrôler. Donc, je suis arrivé en école de journalisme. Fallait passer derrière un micro, fallait passer devant une caméra. Là, t'apprends à contrôler. Devant la caméra, ça allait. J'avais peu de tics. Derrière un micro, ça allait aussi, même si la respiration est un truc un peu compliqué à gérer. Aujourd'hui, j'ai plus de soucis pour aller dans des lieux particuliers. Ça arrive qu'on me regarde parfois un peu mal, soit au cinéma, soit dans une salle de spectacle quelconque. Mais globalement, j'arrive à gérer grâce à la thérapie que j'ai eu il y a quelques années. Je la remets en place et je peux aller voir un spectacle à peu près tranquillement.
Et puis de ce que tu me disais, avec le traitement, les tics, de toute façon, ont largement diminué.
Ouais, avec le traitement que je prends là, ça a diminué. Ça s'est divisé, je pense, par 3 ou 4. Alors que ça avait déjà diminué avec la thérapie cognitive et comportementale avant. Et quand tu me parlais juste des aménagements, j'ai aussi vu un ergonome qui m'a permis d'adapter tout simplement les outils avec lesquels je travaille. Donc j'ai maintenant une souris spéciale, un truc que je peux pas tenir dans les mains mais qui est posé sur mon bureau avec un rouleau. Et ça me permet de bosser tranquillement et je tape sur la mousse qui est en dessous, qui est quasiment faite pour. Normalement faite pour reposer ton poignet, mais moi ça fait un coussin d'amortissement. Et j'avais aussi un siège chez moi qui était ergonomique pour que mon dos soit droit et que je sois pas mal positionné. Quoi.
Parce que du coup, je reviens quand même sur le travail parce que c'est vrai que c'est une grosse question. Nous, quand on s'est connus, on travaillait à Decathlon ensemble, donc c'était déjà un cadre très particulier, mais pas forcément le cadre le plus silencieux. Du coup, au travail, là, en ce moment, en tant que journaliste, est-ce que tu as mis des choses en place ? Je sais que tu as le statut, du coup, travailleur handicapé. Est-ce que tu en discutes dès le début, en entretien ? Comment ça se passe ?
Alors, j'en parle à mes collègues du moment où j'arrive dans la boîte. Maintenant, j'ai appris à le faire parce que j'en parle assez librement de mon syndrome, donc c'est pas. Je préfère en fait que les gens sachent plutôt qu'ils se posent des questions. Je préfère qu'on en parle plutôt qu'ils me regardent avec des yeux un peu dubitatifs et qu'ils osent pas demander. Donc au travail, oui, j'ai mis en place ça. Ensuite, on a des box nous fermés pour passer nos coups de fil et faire nos interviews. Donc on va dire, j'essaie d'y aller un peu plus souvent que les autres pour éviter, parce que quand je travaille sur mon ordinateur, je tape toujours mon poignet contre mon bureau, même si c'est sur ma souris spéciale, ça s'entend. Ça s'entend, je tousse, ça s'entend aussi. Quand je tape sur mon clavier, je tape très fort. Donc ça, c'est tout des choses qui peuvent gêner les autres. Donc ça, je l'ai mis en place au boulot. Et effectivement, quand on bossait à Decathlon, bah, là, pour le coup, il n'y avait pas trop besoin, parce qu'on était tout le temps en train de déambuler dans le magasin. Quand je parlais aux gens, j'essayais de retenir mes tics. S'il y en avait quelques-uns, bon, certains se posaient des questions, je pense, mais le reste, ça allait. Et maintenant, quand je suis en interview ou en reportage avec des gens lambda pour n'importe quel sujet, là, j'ai jamais quasiment évoqué mon syndrome parce que je peux le contrôler. Et qu'en fait, même si j'ai quelques tics, je m'en fiche un peu parce que souvent, je tombe face à des gens qui sont plutôt intelligents. J'ai rarement des regards désagréables. Au maximum je vais avoir une question, mais elle est pas si déplacée que ça en général, donc j'ai pas besoin d'en parler à mes interlocuteurs.
Et en entretien, t'en parles directement ou pas du tout?
En entretien d'embauche?
Ouais.
Alors on m'a conseillé une fois d'en parler au début d'un entretien parce que eux s'étaient posé des questions pendant tout l'entretien. Donc à partir de ce moment là j'ai commencé à en parler, on va dire assez naturellement, au début de l'entretien, en disant voilà, j'ai des tics, vous inquiétez pas, ça me gêne pas pour travailler. Ce que je leur dis assez fréquemment, c'est que j'ai le statut de travailleur handicapé, parce que ça, les RH ont besoin de le savoir. Et du coup, j'associe ça au fait que vous inquiétez pas, j'ai la tourette. Je vais avoir quelques tics potentiellement dérangeants en termes de son, mais à côté de ça, je fais le travail à 100% d'invalide. Yeah. That Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to De Niro, but I'll be hood forever, I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere, yeah they love me everywhere, I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway, pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street, catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry, cruising down A Street, off white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas, me I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. I made the Yankee hat more famous than the Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of walking with my click though. Welcome to the melting pot. Corners where we selling. Africa been by the home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair. They act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice CeeLo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace, Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King. Yo, I'm from the Empire State. That's
C'était un extrait de Empire State of Mind de Jay-Z. Vous écoutez En eau trouble, l'émission qui vogue sur les eaux brumeuses du psyché sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Est-ce que t'as des bulles de protection ? J'ai eu un peu de tout depuis que j'ai commencé l'émission. On m'a parlé cuisine, on m'a parlé ASMR, on m'a parlé escalade. Est-ce qu'il y a des choses qui te font du bien ? Des musiques que t'écoutes, des séries que tu regardes, des balades, des sports, n'importe quoi.
Ouais, alors j'ai testé l'ASMR il y a quelques années. Ça avait un bon effet sur moi. Pour le coup, ça me calmait vraiment, j'avais très peu de tics. Seconde bulle, bah, c'est le sport. Clairement, dès que je fais du sport... Alors, quand je fais de la course à pied, je vais tendance à en avoir encore parce que c'est pas un truc qui me passionne et que j'aime juste la faire en compétition. Mais quand je fais du basket, par exemple, comme je te disais, j'en ai beaucoup moins, voire pas. Et il y a un troisième, une troisième chose qui fait que j'en ai pas, que j'ai testé il y a 2-3 ans maintenant. Mais quand je fume de l'herbe... La beuh, ça a un effet incroyable, c'est que tu n'as plus de tic.
Ah, c'est fou ?
Ouais, alors je m'y suis pas habitué du tout. Okay. L'époque où j'en fumais le plus, c'était à raison d'une fois, un joint pour deux les week-ends, et basta. Mais c'est vrai que cette soirée-là, à chaque fois, c'était génial, quoi. Ça me détendait à fond, et pour le coup, en ayant discuté à demi-mot avec le professeur qui me suit, il m'a clairement dit que le THC, et pas le CBD, mais le THC, c'était quasi prouvé que ça avait un effet sur l'éthique.
Et en France, je ne sais pas du coup légalement comment ça se passe, mais d'un point de vue thérapeutique, on peut t'en recommander ou pas du tout, c'est encore interdit ?
CBD, je crois que oui. THC, non.
D'accord.
Dans tous les cas, la beuh, la weed ou comme tu l'appelles, tu n'as pas le droit de la prescrire.
Du coup, t'en prends régulièrement ou t'essaies quand même de rester à distance
Non, j'en prends plus.
D'accord.
Mais ça ne me gênerait pas d'en reprendre. Je le fais totalement illégalement, mais ça me fait du bien, donc...
C'est le plus important.
Exactement.
On va passer à la partie un peu la plus touchy, surtout là dans le cadre où le regard de l'autre prend quand même une place hyper importante. J'aimerais qu'on parle un peu du regard des autres par rapport à ce trouble. De manière générale, j'aimerais que tu nous parles de ton ressenti concernant ce regard. Est-ce qu'il est plutôt hostile, curieux ? Est-ce qu'il est complètement détaché ?
Ça dépend de la catégorie de personne. Quand je rencontre des gens que je ne connais pas, mais dans un cadre où on est amené à se parler, comme je disais dans le boulot, j'ai rarement, voilà, en interview face à moi, des gens qui ont un regard soit méprisant, parce que ça peut arriver avec des gens inconnus, soit dérangeant. Quand je suis avec mes amis ou ma famille, là, pour le coup, leurs regards, ils sont totalement neutres. Ils passent au-delà du trouble. Ils le connaissent depuis 5, 10, 20 ans pour certains. Ils ont, je pense, compris depuis très longtemps. Et ils me disent tous qu'ils ne le voient plus. Donc ça dépend des personnes à qui tu t'adresses. Et pour le regard des autres dans la rue, là, c'est plus compliqué. Je suis dans le métro tous les jours. Tous les jours, j'ai des gens qui me regardent bizarrement, j'ai des gens qui s'assoient à côté de moi au départ, puis qui s'en vont parce qu'ils ont peur. J'ai des mamies qui me regardent bizarrement, qui quittent la rame de métro pour rentrer dans celle juste après.
Ah oui, carrément. D'accord, ouais, ouais. Okay.
Et ça, alors même que là, pour le coup, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup moins de tics qu'avant. Donc c'est juste par rapport au fait que je bouge ma tête, que j'ai des clignements d'yeux, que si avec mon téléphone aussi, j'ai tendance à secouer mon téléphone vers mon visage. Parfois, du coup, je le touche même. Parfois, je me cogne. Ça, les gens, ils comprennent pas. Mais qu'est-ce qu'il fait avec son téléphone ? Pourquoi il le secoue ? Il est con ou bien ? Donc voilà, ce regard-là, t'y échappes pas, malheureusement. Après, voilà, il faut juste apprendre à le gérer et à relativiser, quoi.
C'était intéressant quand on parlait par rapport à tes collègues. Tu disais que souvent, les gens te posaient la question, ce qu'ils avaient peur de t'exaspérer. Qu'en fait, c'était pas des tics, mais que tu faisais des signes d'exaspération que tu te mettais à souffler ou à bouger, ils disaient pardon, est-ce que je fais un truc qui t'embête, est-ce que la clope t'embête, est-ce que...
Ouais, c'est ça, la clope, ça revient souvent. Vu que je tousse, les gens ils se disent ah, excuse-moi, je t'embête avec ma clope. J'ai dit, non, non, pas du tout, t'inquiète, c'est de la toux nerveuse, c'est tellement rien à voir. Là, ça m'est arrivé ce matin encore. C'était marrant parce que j'ai respiré fort et ma collègue qui est en face, qui a l'habitude, qui me connaît depuis plusieurs mois, elle me dit qu'est-ce que t'as vu de drôle sur ton ordi. Et je dis non, non, t'inquiète, là c'était juste un tic et elle a rigolé, tu vois. Donc oui, ça dépend. Après, voilà, t'as des gens que t'as pas encore croisés dans la boîte qui passent une fois de temps en temps, qui viennent discuter avec un de mes collègues et puis là, ils m'entendent taper et ils se retournent bizarrement, tu vois, en me regardant fixement.
Qu'est-ce qu'il veut celui-là ?
C'est ça, exactement. Et ça m'est arrivé, mais maintes et maintes fois qu'on me dise soit t'énerve pas, soit pourquoi t'es énervé, tu vois. Et là, je leur dis, alors soit j'ai la patience à ce moment-là de leur expliquer, de leur dire non, j'ai un syndrome, je peux pas faire autrement. Soit j'ai pas la patience et ça peut m'arriver de regarder mal la personne ou alors juste de pas y prêter attention.
C'est ce que j'allais dire, t'as encore la patience d'expliquer ? Enfin, je veux dire, quand les gens sont vraiment désagréables ou vindicatifs, est-ce que t'arrives encore à prendre le temps d'expliquer les choses ?
Mais en fait, depuis plusieurs années, là, je pense que j'ai pas mal pris confiance en moi et au point que ça pourrait m'arriver de répliquer en fait et de leur dire tout simplement, mais... Alors si vous voulez juste être con et pas comprendre que j'ai un trouble, après évidemment en avoir parlé une première fois, c'est pas mon problème quoi. Donc la patience, je la garde, oui, je pense que je l'aurai toute ma vie parce que pour moi c'est un devoir quand t'as un trouble face à des gens qui ne connaissent pas de l'expliquer parce que ben, tout simplement tu peux pas reprocher à quelqu'un d'ignorer quelque chose. Maintenant si ça passe ce stade là et que la personne est toujours exaspérée comme ça a pu m'arriver avec des profs qui étaient au courant de mon syndrome quand j'étais au lycée, là pour le coup c'est différent et là soit ouais, j'y prête pas attention, soit ça peut commencer à m'énerver et franchement les gens qui me connaissent pour m'énerver c'est très 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 compliqué, donc c'est très très rare.
D'ailleurs oui, en termes de belles réactions bienveillantes, je veux bien que tu nous racontes au micro l'anecdote avec ton prof qui avait un peu pété son câble.
Ouais, j'étais au lycée en terminale, je crois. J'étais en cours de SES avec mon prof principal, qui se reconnaîtra peut-être s'il nous écoute.
C'est pour toi.
C'est pour toi. Et non, tout simplement, depuis le début de l'année, j'avais des tics depuis plusieurs années, il me connaissait. Mais ce jour-là, j'avais une toux très persistante. Certes qui gênait le cours, on va pas se mentir, mais j'ai eu une crise à ce moment-là, vraiment, j'avais beaucoup beaucoup de tics et il a tenu plusieurs dizaines de minutes. Au bout d'un moment il m'a lâché hein, Maxime, au moment où tu verras que je peux plus faire cours, tu sortiras. Je suis sorti parce qu'à l'époque j'avais pas la confiance actuelle pour répliquer. Là je lui aurais dit si vous voulez je vous file mon syndrome, tu vois, parce qu'il était au courant, il savait très bien, il me connaissait. Donc je suis sorti de la salle et ce que j'ai appris par la suite c'est que mes camarades en solidarité ont commencé à tousser très fort chacun leur tour dans la classe. Et effectivement, je les entendais. Et tout le monde a fini quasiment par tousser. Et je sais qu'il a rien dit, mais je pense qu'intérieurement, ça devait bouillir. Et il a dû péter un câble en sortant, quoi.
Comme quoi, l'école peut parfois aussi mettre des beaux moments de fraternité.
Totalement.
Et en famille, vous en discutez ? Parce que du coup, il y a encore tout un espèce de flou sur un cadre potentiellement génétique. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souffrent de syndrome dans ta famille ? Est-ce que vous en discutez facilement avec tes parents, frères, sœurs ?
Alors, mon père a quelques tics. Ma sœur en a eu plus jeune. Ils ont tous disparu quand elle est arrivée à l'âge adulte. On en a discuté à un moment, clairement. Je ne pourrais pas te donner la teneur exacte des discussions parce que ça remonte trop et que je ne m'en souviens pas forcément. Mmh. Peut-être que mon cerveau a fait exprès de... dégager ça aussi, mais c'est plus ou moins bien, pas accepté mais bien compris. Il y a des gens dans ma famille comme ma tante ou ma mère qui comprennent totalement le truc. J'ai jamais eu une réflexion de leur part ou quelque chose de malaisant ou quoi que ce soit. Mes grands-parents, à un moment quand j'étais vraiment au pic, ça a été compliqué pour eux, notamment pour mon grand-père. Il y a une fois où il y a eu c'était trop, ça a excédé sa patience et il m'a fait une réflexion en criant un peu, en disant bon c'est bon là, voilà, j'avais une grosse quinte de toux devant la télé, mais ça durait depuis des dizaines de minutes, juste il n'en a plus pu et il est parti. Et je pense qu'il s'en est voulu après. Et puis il y a mon père, où là c'est plus compliqué, parce que il pense bien faire, il y a vraiment la volonté de bien faire, mais il est gênant par rapport à ça en fait. Il a eu un jour, pour donner un exemple, je vous ai rencontré ma deuxième copine dans un bar. Il a attendu que je parte aux toilettes pour donc j'avais à ce moment-là plus de 20 ans pour lui poser des questions sur moi,
mais ah oui, d'accord.
Mais des questions qui étaient bien intentionnées, mais genre c'était ça va avec Maxime, tu sais, avec ses tics, je sais que ça doit pas être évident, et elle regardait avec des yeux estomaqués, et quand elle m'a raconté ça derrière, elle m'a dit mais je savais même pas quoi lui dire à ton père en fait, c'était un non-sujet pour moi, et elle était préparée, elle savait comment il était, je l'avais briefé, du coup elle savait que il était pas mal intentionné, mais il comprend pas, je peux pas lui en vouloir parce qu'il peut pas se mettre à ma place, mais il a pas le comportement que devrait avoir quelqu'un qui est proche de moi. Et c'est la même chose pour le côté HPI, là il capte encore moins. C'est nous en fait avec ma sœur qui devons être un peu les parents et l'éduquer sur la tourette ou autre, plus qu'autre chose, sauf que j'ai un peu perdu patience avec ça et que maintenant je fais comme si ça n'existait plus avec lui, quoi.
Comme nous l'explique Maxime, lorsqu'il pratique une activité qui lui plaît, les tics peuvent s'atténuer, voire carrément disparaître. A contrario, le stress, un changement dans la routine ou une période de fatigue peuvent provoquer l'apparition ou l'augmentation des tics. Il existe une composante génétique dans le SGT, mais à ce jour, peu de gènes de prédisposition ont été identifiés. Il existerait probablement également des facteurs risques environnementaux. On parle donc de syndrome multifactoriel. Ces informations sont issues du site de l'Institut du cerveau. Et dans des cercles plus intimes, du coup, tu nous parlais un peu de ta copine. Est-ce que tu as eu des difficultés pour trouver quelqu'un ? Comment ça se passe en couple de gérer ce trouble ?
Alors là, pendant très longtemps, c'était très compliqué pour moi de trouver quelqu'un. Alors, je ne sais pas encore si je l'associe plus au côté Tourette ou au côté HPI. Parce qu'il y avait soit une défiance, un regard un peu... le regard que tu peux avoir quand t'es collégien ou lycéen vers un syndrome comme ça, ça peut faire peur. Ou ça peut interroger. Et du coup, on va même pas se poser la question d'être en couple avec une personne comme ça. Juste, on peut être amis maximum, mais voilà. Ou le côté HPI qui était en trop grand décalage. Et moi, je voulais des choses de quelqu'un de 25 ans quand j'en avais 16 ou 17. Ce qui collait pas avec les gens de mon âge. Bref, tout ça pour dire que j'ai eu trois relations sérieuses. Les trois, à chaque fois, il y avait une bienveillance incroyable de la part de chacune d'elles. Et ça, c'était agréable. En fait, à chaque fois, ça s'est fait tout seul. Elles se sont même pas posé la question, ou en tout cas, elles ne me l'ont pas fait remarquer. Et la première fois, rapidement, je lui ai expliqué, ou alors elle a su par une connaissance commune que j'avais des tics. Du coup, je crois qu'on en a parlé que longtemps après, en fait, elle était au courant, quoi. Bref, donc ça s'était fait tout seul. La deuxième, on était en cours ensemble pendant longtemps. Donc elle me connaissait par cœur, on a été amis avant d'être ensemble. Et là, les tics, ça n'a jamais été un souci. Et ensuite, dans la relation, elle a toujours pris ma défense quand il y avait des gens qui avaient un regard défiant par rapport à moi ou voilà, qui faisaient des réflexions. Ça nous arrivait au cinéma, elle a pété un câble un jour contre des gens qui s'étaient retournés à la fin du film en faisant une réflexion, en disant bon, c'est bon, t'as fini de tousser, voilà, ça a renvoyé dans leur 22 et c'était un peu violent. Et la troisième, pareil, elle est extrêmement bienveillante par rapport à ça. En fait, elles ont même jamais eu des questions déplacées ou qui auraient pu être légitimes. Tout s'est fait assez naturellement, et même moi je me demande encore aujourd'hui comment est-ce qu'elles font pour vivre avec ça. En l'occurrence, ma deuxième copine, on a fait le confinement ensemble, dans 30 mètres carrés, à deux. On travaillait tous les deux. Moi, à l'époque, j'avais pas ma souris spéciale. Je cassais mes souris sur sa table pendant des heures et des heures. Ça m'est arrivé de lui demander de taper à ma place mon texte. Il se trouve qu'elle est journaliste aussi, donc elle pouvait m'aider. Je n'arrivais pas à travailler. Donc elle, pendant une heure, tapait littéralement ce que je faisais, ce que je devais faire, ce que je dictais, alors que mon chef était en train de m'écrire sur WhatsApp, quoi. Donc c'était archi handicapant et j'ai toujours été soutenu à 200%. Et aujourd'hui, ma copine actuelle, c'est la même chose, elle me soutient à 200%. Moi, j'adore en rigoler, en fait. Il y a des fois où, voilà, même avec mes potes, ça se tourne en dérision et je suis le premier à rigoler là-dessus parce qu'il n'y a pas mort d'homme. C'est, voilà, c'est pas une maladie où je risque d'en mourir. Donc je préfère en fait que les gens plaisantent dessus plutôt qu'ils soient gênés quand je fais une vanne dessus, quoi.
C'est ce que j'allais dire. Du coup, avec tes amis, ça se passe bien ? Enfin, c'est un sujet dont vous parlez facilement
Ouais, c'est un non-sujet. En fait, il y a des personnes qui deviennent amies avec moi et au bout d'un moment, ils me disent « Ah, donc c'est la tourette que t'as ?» Parce qu'ils savaient que j'avais des tics, mais ils ne savaient pas trop. Et puis mes amis de longue date, eux, les seuls moments où on en parle, c'est vraiment quand on vanne dessus. Il faut transporter un truc fragile. Le premier truc qu'on va dire, c'est bon, on va peut-être pas le confier à Maxime, du coup. Tu vois, c'est ce genre de choses. Donc, j'ai aucun souci avec eux par rapport à ça.
Et tu côtoies pas du tout de personnes qui ont des tics autour de toi ?
Des tics, peut-être, mais quelques tics, mais tourette, je crois pas. Je pense que je l'aurais eu.
Et t'aurais aimé pouvoir rencontrer des gens qui avaient le même syndrome que toi ? Histoire de pouvoir en discuter, partager sur ces questions.
Bah, étant donné qu'en fait ma souffrance principale vient plutôt de mon côté HPI, rencontrer des gens qui ont la tourette, ça m'aurait pas forcément apporté tant que ça. Déjà, quand tu rencontres quelqu'un qui a des tics, sur le moment, toi-même, tu as plus de tics, donc c'est pas forcément agréable de voir ça. et ensuite, en fait, la souffrance qui découle de la tourette, soit une souffrance physique, d'en parler, ça change pas grand-chose, soit une souffrance par rapport aux moqueries, mais en fin de compte, je l'avais puissance 100 avec le décalage que je chantais par rapport aux autres, avec le côté HPI. Donc en fin de compte, pour le coup, j'ai préféré rencontrer des gens HPI qui comprenaient mon mal-être, plutôt que des gens qui avaient la tourette, qui pour le coup souffrait comme moi, mais n'allait pas forcément m'aider psychologiquement.
C'est très touchant ce que tu me disais par rapport à tes copines et globalement, du coup, par rapport aussi à tes potes, à tes collègues. Du coup, tu me disais que beaucoup disaient ne plus voir tes tics. T'arrives à croire à ça ?
En fait, je les crois par... Comment dire ? Je suis contraint de les croire parce qu'ils m'ont jamais menti, en fait. Donc, je pense pas qu'ils me le disent pour me faire plaisir. Juste... Ça me paraît difficile à concevoir parce qu'on a des yeux et quand on voit quelque chose, on peut pas s'empêcher de le voir. Ça... Le truc, c'est plus qu'ils y font plus attention. Je pense qu'ils le voient, mais ils se posent... y a plus la petite réflexion ou la petite question qui vient dans leur esprit. À l'inverse, tu me parlais des filles que j'ai pu rencontrer avant. Je suis déjà tombé sur une fille en date qui, au bout de 3 minutes de discussion, a stoppé la conversation. M'a dit « Je suis désolé, il faut que j'y aille », est partie comme une voleuse. Et ensuite, quand je lui ai envoyé un message, elle m'a dit « Bah, je sais pas, t'avais l'air stressé, t'avais plein de tics, etc. » Je lui ai expliqué calmement que j'avais un syndrome et que j'allais lui en parler, sauf qu'on se connaissait depuis 3 minutes. Et elle m'a reproché, limite, de pas lui avoir dit avant. Genre, coucou, je suis handicapé. après, je te préviens.
Sur ta page Tinder, c'est le minimum.
Exactement, c'est totalement ce que j'aurais dû mettre. Et c'est la seule fois où ça s'est posé la question. En fait, je me suis même... J'étais un peu con parce que je me suis remis en question, genre... Une heure par rapport à ça, sauf que en fait j'aurais même pas dû m'en mettre en question parce que tous les autres dates que j'avais pu avoir avant ou les relations, ça n'a jamais posé un quelconque problème, surtout du fait que j'en parlais assez rapidement quand même.
Et globalement, t'as la chance d'être très bien entouré.
Ouais, je suis très très entouré, donc ça c'est sûr que ça aide.
On va arriver à la fin de l'épisode. Pour conclure, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui souffre du même syndrome que toi ?
C'est compliqué de donner un conseil comme ça parce que tu sais très bien, en ayant le syndrome, que ce conseil-là, il n'est pas forcément applicable. En fait, ça dépend du tempérament de chacun. Je dirais que si tu en es capable, essaie de faire abstraction des gens que tu connais pas, qui pourrait avoir un regard désobligeant. Parce qu'en fin de compte, ce qui fait le plus souffrir sur les facteurs exogènes, c'est ça. C'est le regard des gens. Tout ce qui a trait à toi, ben, hormis à suivre une thérapie ou avoir des médicaments, tu peux rien y faire. Donc le seul truc important, c'est de s'informer rapidement. Quand on est jeune, voilà, que si les gens voient que leurs enfants ont des tics moteurs et verbaux, au bout d'un moment, je pense qu'il faut essayer de juste consulter, ça coûte pas grand-chose, et ensuite de savoir s'il y a un diagnostic ou pas de poser, et à partir de là, déjà, tu vivras beaucoup mieux, je pense.
Merci Maxime.
Merci à toi Louise.
C'était le quatrième épisode dans Nos Troubles. Rendez-vous dans 2 mois pour une prochaine et dernière rencontre sur Radio Campus Paris 93.9 FM.